Chapitre 46. Zed regarda autour de lui en se grattant le menton. Il n'y avait personne dans l'étrange ruelle très étroite et fort mal éclairée. Tout au bout, sur une petite place, la sinistre résidence semblait abandonnée. Et c'était un très bon signe. Le vieux sorcier flatta les naseaux d'araignée.
« Tu vas m'attendre ici, c'est compris. Tu ne bouges pas de là et tu m'attends. »
La jument secoua la tête et hennit de satisfaction. Ravi, Zed lui caressa l'oreille. En réponse, l'araignée pressa les naseaux contre sa poitrine et les y laissa, histoire de signifier à son maître qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce qu'il la cajole ainsi jusqu'à la fin de l'après-midi. Baptisée araignée à cause des taches noires en forme de pattes qui s'étendaient sur sa croupe blanc cassée, la jument, malgré son prix élevé, s'était révélée une excellente acquisition. Jeune, solide et débordante d'enthousiasme, elle adorait avancer au trot et ne répugnait pas par moments à se lancer dans un galop effréné. Du coup, Zed avait rallié Toskla en un temps record. Depuis son arrivée, il avait appris que le pays s'appelait maintenant Anderit. Pour tout dire, il avait failli être arraché de sa selle par un type qui l'accusait d'utiliser le nom obsolète pour insulter les Andériens. Par bonheur, araignée, insensible aux querelles sémantiques des hommes, s'était joyeusement lancée au galop avant que la situation dégénère. Privée de son pouvoir, vulnérable et rattrapée par son âge, Zed s'était résignée à un long voyage à pied à travers le pays sauvage. Mais une magie qui n'avait rien de surnaturel, la chance, s'était portée à son secours. 3 jours après son départ du village des hommes d'Adobe, il avait rencontré un homme qui gagnait sa vie en jouant les intermédiaires commerciaux entre différents peuples. Faisant sans cesse la navette entre ses clients, il se déplaçait avec plusieurs chevaux de rechange. Convaincu par le prix que proposait le vieux sorcier, il avait consenti à se séparer d'araignée. Le long et difficile voyage de Zed s'était transformé en une promenade de santé, tant qu'il ne pensait pas aux raisons qui le poussaient à gagner Toskla, ou plutôt Anderit. À la frontière, il avait dû faire la queue en compagnie d'une foule de marchands et de colporteurs aux chariots remplis de biens divers. Avec sa magnifique tunique bordeaux aux manches noires et au col orné de broderies d'or et d'argent, sans parler de sa ceinture de satin rouge à boucles d'or, il n'avait eu aucun mal à se faire passer pour un riche négociant. Se présentant comme le propriétaire d'un grand verger, quelque part dans le nord, il avait raconté aux soldats qu'il allait à Fairfield pour négocier un accord commercial. Au comportement nonchalant des gardes frontaliers, Zed avait conclu qu'Anderit se fiait trop aveuglément au Dominique Dirch. Lors de sa précédente visite à Toskla, des décennies plus tôt, la frontière était surveillée par des soldats d'élite lourdement armés. Au fil du temps, la vigilance des Andériens s'était relâchée et cette confiance injustifiée risquait au tout tard de leur coûter cher. Zed remarqua qu'Araignée, soudain tendue à craquer, avait pointé les oreilles vers la maison apparemment déserte. Quand il s'agissait de sentir le danger, l'instinct de la jument semblait agir un peu comme la magie. Le vieux sorcier trouva cette idée vexante et désagréable. Vivre sans son pouvoir commençait à lui taper sérieusement sur les nerfs. Après avoir tapoté les naseaux de la jument pour la rassurer, il s'engagea dans la ruelle, entre deux rangées de hauts murs qui occultaient la lumière du jour. Pourtant, toute une variété de plantes poussait sur les côtés de l'étroit passage. Parmi ces végétaux, dont certains étaient extraordinairement rares, un bon nombre préférait de loin l'obscurité à la lumière. Mais aujourd'hui, ils avaient l'air maladifs, même dans leur pénombre adorée, l'effet des carillons sur leur magie sans nul doute. En sorcier aguerri, Zed prit soin de gravir l'une après l'autre les marches qui menaient à la porte de la maison. S'il ne se trompait pas sur cet endroit, les monter d'un seul coup pour aller plus vite ou pour tenter de passer inaperçu aurait été une grossière erreur. Jetant un coup d'œil par les fenêtres, car les rideaux n'étaient pas totalement tirés, il vit qu'aucune lumière ne brillait à l'intérieur de la résidence. Sans le soutien de son pouvoir, il n'aurait su dire si quelqu'un l'épiait, mais son bon sens lui souffla que ce devait être le cas. Zed regarda une dernière fois par-dessus son épaule. À l'entrée de la ruelle, Araignée le regardait, les oreilles toujours pointées vers la maison. Voyant que son maître s'était à demi tourné vers elle, la jument tendit le cou et poussa un hennissement plaintif. Zed frappa résolument à la porte, qui s'ouvrit toute seule.
« Entrez !»
lança une voix profonde.
Et dites ce que vous voulez. »
Le vieux sorcier obéit et avança d'un pas dans une minuscule pièce obscure. La lumière qui filtrait des rideaux et de la porte, bizarrement, s'arrêtait d'un coup, comme si elle n'avait pas voulu s'aventurer trop loin dans ces sinistres lieux. Le vieux sorcier n'aperçut pas l'ombre d'un meuble. Devant lui, le plancher s'étendait jusqu'aux ombres où se tapissait la maîtresse de maison. Zed se retourna, étudia la porte et braqua un index osseux sur le haut de l'encadrement.
« Très ingénieux, » dit-il. « On voit à peine la corde qui sert à ouvrir à distance, et l'effet est réussi. »«
Qui ose venir réveiller mon courroux ?»«
Ton courroux ? Très cher, tu te méprends sur mes intentions. Je suis ici pour parler amicalement avec une magicienne. »«
Étranger, prends garde à ce que tu souhaites. Parfois nos désirs se réalisent d'une manière des plus déplaisantes. » « Pour commencer, dis-moi ton nom. »
Zed s'inclina bien bas.
« Zedike Zelzorander, »
annonça-t-il en inclinant la tête pour regarder du coin de l'œil la femme dissimulée dans le noir.
« Et pour être plus précis, le premier sorcier, Zedike Zelzorander. »
La magicienne avança vers la lumière.
« Le premier sorcier ?»
répéta-t-elle, l'air effaré.
« Franca Gowenlock, je présume ?»
lança Zed avec un sourire désarmant. Soufflée, la femme parvint seulement à hocher la tête.
« Eh bien, ce que tu as grandi, petite !»
s'extasia le vieux sorcier. Il tendit une main à hauteur de sa ceinture.
« La dernière fois que je t'ai vue, tu n'étais pas plus haute que ça, et tu es devenue une splendide jeune femme !»
Empourpré, Franca écarta coquettement une mèche de cheveux de son front.
« Premier sorcier, j'ai déjà des cheveux gris.
Les pétales d'une fleur superbement épanouie, je t'assure. »
Zed ne mentait pas. Franca était très séduisante et la belle crinière noire qui cascadait sur ses épaules mettait en valeur son visage parfait. La touche de gris sur ses tempes ajoutait juste ce qu'il fallait de maturité à sa beauté.
« Et vous, premier sorcier ?»«
Oui, je sais, » coupa Zed. « J'ignore quand c'est arrivé exactement, mais me voilà un authentique vieillard. »
Franca sourit, avança de quelques pas, saisit gracieusement l'ourlet de sa robe et se fendit d'une révérence.
« Vous recevoir dans mon humble demeure est un honneur, premier sorcier. »«
Oublie les Salamalek !»
lança Zed en agitant une main nonchalante.
« Nous sommes de vieilles connaissances, après tout. Appelle-moi Zed, ça ira très bien. »
Franca se releva.
« Eh bien, Zed, j'ai du mal à croire que le Créateur ait répondu si promptement à mes prières. J'aimerais tant que ma mère soit encore de ce monde pour qu'elle ait la joie de vous revoir. »«
Elle aussi était une femme superbe, » dit le vieux sorcier.
« Puissent les esprits du bien veiller sur son âme délicate. »
Profondément touché, Franca prit entre ses mains le visage de son visiteur.
« Malgré vos dires, vous êtes aussi beau que dans mon souvenir.
Vraiment ?»
Par réflexe, Zed bomba le torse.
« Eh bien merci, Franca. J'essaie de prendre soin de moi. Des bains réguliers, avec des herbes et des huiles spéciales. Oh, c'est sans doute pour ça que ma peau est toujours aussi lisse. »
« Zed, je suis tellement heureuse de vous voir. Le Créateur soit loué. »
Le visage du sorcier toujours entre les mains, Franca éclata en sanglots.
« J'ai besoin d'aide, premier sorcier, c'est vital. »
« Eh bien, voilà qui est étrange, parce que... »«
Vous avez secouru ma mère, jadis. »
coupa Franca.
« Par pitié, ne m'abandonnez pas. Mon pouvoir m'a quitté et je ne sais que faire. Pourtant, j'ai tout essayé. » Mais les dizaines de grimoires que j'ai consultés ne m'ont servi à rien. Pour que personne ne s'aperçoive que je n'étais plus moi-même, j'ai dû recourir au truc minable de la corde accrochée à la porte. Zed, l'inquiétude me ronge et je ne dors plus. J'ai tenté de...
Les carillons rôdent dans notre monde, Franca.
La magicienne regarda le vieux sorcier, les yeux ronds comme des soucoupes.
Qu'avez-vous dit ?
« Les carillons rôdent dans notre monde. »«
Non, ce n'est pas ça. Je crois plutôt que c'est un poison dans mon sang. Peut-être à cause d'un sort jeté par une femme moins douée que moi, mais plus ambitieuse. Une rivale jalouse, désireuse de se venger. J'ai toujours tenté de ne nuire à personne, mais il y a des circonstances où...
Z prit Franca par les épaules.
Mon ami, je suis venu te demander de l'aide. La mère, ma petite fille adoptive, a invoqué les carillons pour sauver la vie de mon petit-fils. Et les conséquences sont terribles, Franca. J'ai besoin de toi. Mes pouvoirs m'ont également abandonné, et le monde des vivants est en danger. Une magicienne de ton envergure n'a pas besoin de longues explications. Il faut bannir les carillons de notre univers, et je n'y arriverai pas seul.
Et votre petit-fils a-t-il survécu?
Oui. Grâce à la femme qu'il était sur le point d'épouser, il a échappé aux griffes de la mort.
Franca réfléchit un moment, le bout d'un index sur les lèvres.
Au moins, c'est une bonne chose. Mais en échange de leur aide, les carillons ont pu franchir le voile et...
La magicienne sursauta.
Votre petit-fils a-t-il le don?
Même si un millier d'idées traversèrent à cet instant son esprit, Z répondit de la façon la plus simple qui soit.
Oui.
Franca sourit poliment, indiquant qu'elle était ravie pour Z qu'il est un descendant doué pour la magie, puis elle passa sans crier gare à l'action. Après avoir tiré les rideaux, elle prit Z par le bras et le guida vers une table, au fond de la pièce. Lorsque Franca eut écarté la lourde tenture qui voilait la petite fenêtre arrière, Z vit qu'une grâce en argent était incrustée sur le plateau du meuble en chêne sombre. La magicienne fit signe à son visiteur de s'asseoir. Pendant qu'il prenait place sur une chaise, elle saisit la théière qu'elle gardait au chaud sur une grille, dans la cheminée, remplie de tasses, en posa une devant son invité et s'assit en face de lui. Après une infime hésitation, elle se jeta à l'eau.
« Z, je crois que vous ne m'avez pas tout dit. »«
C'est exact, mais le temps presse. »«
Trop pour que vous éclairiez un peu ma lanterne ?»«
Eh bien, pas vraiment, surtout si tu insistes. »
Le vieux sorcier but une gorgée de thé.
« Tu te souviens de Dara, je suppose ?»
La magicienne se pétrifia, sa tasse fumante à un pouce de ses lèvres.
« Comment pourrais-je oublier ce nom maudit ?»«
Oui, oui, mon petit-fils, Richard, est l'enfant de ma fille. Hélas, il est le fruit d'un viol. »«
C'est navrant, »
dit Franca, sincèrement ému.
« Mais quel rapport avec Dara ?»
Son géniteur se nommait Darkendral.
Prenant conscience qu'elle tremblait, Franca posa sa tasse pour ne pas se renverser du thé brûlant sur les genoux.
« Ai-je bien compris ?»
demanda-t-elle.
« Votre petit-fils est l'héritier de deux lignées de sorciers. Et c'est lui, le seigneur Ral, qui exige la reddition de tous les royaumes des contrées du milieu ?»«
Eh bien, c'est ça, oui.
Et c'est également lui qui doit épouser la mère inquisitrice ?»
« Exactement, à part que cela s'est fait entre-temps. Une très jolie cérémonie, un peu spéciale peut-être, mais somptueuse à sa façon. »«
Par les esprits du bien, que de nouvelles stupéfiantes en si peu de temps. »«
Oh, j'allais oublier, ce garçon est un sorcier de guerre. Il est né avec le don pour les deux variantes de magie. »«
Quoi ?»
Tu sais, l'additive et la soustractive.
Oui, oui, je n'ai pas besoin d'un dessin.
Bien sûr.
Une minute. Si j'ai bien tout suivi, c'est la mère inquisitrice qui a invoqué les carillons.
Elle ne pouvait pas faire autrement et...
Franca se leva d'un bond, manquant renverser sa chaise.
C'est donc le seigneur Ralque, par les esprits du bien. La mère inquisitrice a promis au carillon l'âme du seigneur Ral, un sorcier de guerre doué pour les deux sortes de magie.
C'est moins moche que ça en a l'air, Franca. Kalan ignorait les conséquences de ses actes. Cette jeune femme de qualité ne commettrait jamais délibérément un acte aussi vil.
Délibérément ou non, si les carillons trouvent Richard...
Ne t'en fais pas, il est en sécurité, et sa nouvelle épouse aussi... Je les ai envoyés en lieu sûr, hors de portée des carillons. Sur ce point-là, nous sommes tranquilles.
C'est déjà ça. Le Créateur en soit loué.
Mais nous sommes privés de nos pouvoirs, dit Zed après avoir bu une nouvelle gorgée de thé. Et la magie déserte le monde, qui est peut-être à deux doigts de sa destruction. Bref, quand je disais avoir besoin d'aide, ce n'était pas une figure de style. Si tu te rasseyais, chère petite.
Pris au dépourvu, Franca se laissa retomber sur sa chaise. Onctueux et charmant, Zed la félicita de la qualité de son thé et lui conseilla d'en boire un peu elle-même.
Premier sorcier, c'est l'assistance du Créateur qu'il vous faut. Que pourrais-je faire? Je suis une magicienne parmi des milliers d'autres, dans un pays presque oublié du monde. Pourquoi êtes-vous venu me voir?
Zed plissa les yeux et désigna la bande de tissu noir autour du cou de Franca.
Que caches-tu derrière ce foulard?
Une cicatrice. Vous n'avez pas oublié le sang de la déchirure, je suppose.
Zed fit signe que non.
Dans tous les pays, des fanatiques pensent que la magie est responsable de tout ce qui ne va pas dans leur vie.
Oui, les illuminés sont légion.
Chez nous, leur chef se nomme Serin Rajak. Comme tous ses semblables, il est vicieux et plein de haine. Très bon orateur dans son registre, il a l'art d'exciter les foules pour qu'elles l'aident à faire le sale boulot.
Et en te tuant, il pensait libérer le monde du mal.
Comment avez-vous deviné?
Railla Franca. Elle tira sur la bande de tissu pour dévoiler la peau ravagée de sa gorge.
Il m'a pendu à un arbre, et ses sbires ont allumé un feu sous mes pieds. Ce fou pense que les flammes débarrassent définitivement le monde des magiciens. Bref, qu'elles les empêchent de le hanter après leur mort.
Ça ne finira donc jamais, soupira Zed.
Apparemment, tu l'as convaincu de te laisser en paix.
Ce qu'il m'a fait lui a coûté un œil.
Je ne saurais t'en blâmer.
Mais tout ça est arrivé il y a longtemps.
Zed estima qu'il était temps de changer de sujet.
Tu sais que nous sommes en guerre contre l'Ancien Monde.
Bien sûr. Un émissaire de l'Ordre Impérial est actuellement en Anderith pour négocier avec nos dirigeants.
Quoi? L'empereur vous a envoyé un ambassadeur?
C'est exactement ce que je viens de dire. Certains membres du gouvernement sont très attentifs à ces propositions. J'ai peur que l'ordre ait depuis longtemps des contacts avec nos élites politiques.
Franca prit sa tasse, but une gorgée, puis dévisagea le vieux sorcier. Après une courte réflexion, elle sembla se décider à jouer carte sur table.
Certains Andériens ont envisagé d'envoyer un message secret à la mère inquisitrice, pour qu'elle vienne enquêter sur cette affaire.
C'est bien beau, mais à cause des carillons, elle sera impuissante, comme toi et moi. Tant que le problème ne sera pas réglé, elle ne pourra rien faire.
Je vois ce que vous voulez dire. La priorité est donc de bannir les carillons de notre monde.
En attendant, quelqu'un d'autre pourrait fourrer son nez dans cette histoire.
Qui pourrait mettre sur la sellette le ministre de la civilisation?
Demanda Franca accablé.
Les directeurs, par exemple.
Oui, peut-être.
Zed ne disant plus rien, Franca tenta de meubler le silence.
En Anderith, on essaie toujours d'éviter les conflits.
Partout, des gens tentent de passer entre les gouttes, soupira Zed. Mais ça ne sert à rien. Pour résister à l'ordre impérial, qui l'attaquera tôt ou tard, ton pays devra se rallier à Richard et à l'Empire d'Aran.
Il but un peu de thé.
Au fait, t'ai-je dit que Richard était aussi le sorcier de vérité?
Non, vous avez négligé ce détail.
Mon petit-fils ne laissera pas les dirigeants d'Anderith fricoter avec l'ordre impérial. La mère inquisitrice et lui ne tarderont pas à mettre un terme à ses manœuvres. C'est en partie pour ça que Richard a été forcé de prendre le pouvoir. Il veut unifier tous ceux qui résistent à l'ordre, mais il tient à ce que ses lois soient justes et équitables.
« Des lois justes et équitables ?»
répéta Franca, ironique comme si c'était un rêve irréalisable.
« Zed, nous sommes un pays riche et les Andériens tiennent le haut du pavé. » Si les Haken étaient séduits par l'ordre impérial, je pourrais le comprendre, parce qu'ils ont des raisons d'être mécontents. Mais les Andériens ont déjà tout, et ils tendent l'oreille à la propagande d'un esclavagiste.
Certaines personnes détestent savoir que les autres sont libres. Comme Serin Rajak, qui abomine les magiciens, les élites dirigeantes, ou ceux qui aimeraient en faire partie, ont une sainte horreur de la liberté. Leur plus grand plaisir est de voir perdurer le malheur et la misère. »
Conscient que l'atmosphère s'alourdissait, Z décida de l'alléger un peu.
« Franca, as-tu un mari ? Ou ton cœur est-il encore libre pour tous les hommes fringants qui arpentent ce monde ?»
Avant de répondre, la magicienne eut un énigmatique petit sourire.
« Désolé, mais mon cœur appartient à quelqu'un. »
Z tendit un bras à travers la table et tapota la main de sa nouvelle amie.
« Tant mieux pour toi. »« Non, pas vraiment, parce que cet homme est marié. Je dois taire mes sentiments, Zed. S'il quittait sa jeune et belle épouse pour une vieille fille comme moi, je m'en voudrais jusqu'à la fin de mes jours. Alors je fais tout pour qu'il ne se doute de rien. »« Je suis navré, Franca, » dit Zed du fond du cœur. « La vie, et surtout l'amour, semble souvent injuste. » Mais les choses changent et... »
D'un geste, Franca implora le vieux sorcier de ne pas continuer sur cette voie. Une manière de se protéger, comprit-il.
« Zed, je suis flatté que vous soyez venu me voir, et pour commencer, que vous vous rappeliez simplement mon nom. Mais que puis-je pour vous ? Vos pouvoirs sont infiniment supérieurs aux miens, enfin, ils l'étaient. » « Pour être honnête, je n'ai pas besoin de ton aide au sens où on l'entend d'habitude. Je suis ici parce que j'ai appris, lors d'une précédente visite, qui ne remonte pas à hier, que les Carillons étaient enterrés en Toscle, ou en Derrit, si tu préfères. »« Vraiment ? Je l'ignorais. Et où sont-ils enfouis ? J'espérais que tu le saurais. » Comme tu étais ma seule connaissance dans ce pays, j'ai frappé à ta porte pour demander ton soutien. Hélas, je n'ai pas la réponse à votre question. Mais si vous êtes certain que les Carillons ne peuvent pas s'approprier l'âme de Richard, ils seront obligés de retourner dans le royaume des morts. Dans ce cas, nous n'aurons rien à faire, car le problème se réglera tout seul. C'est vrai, mais n'oublie pas la nature même du royaume des morts. « Pouvez-vous préciser votre pensée ?»
Le vieux sorcier désigna le cercle extérieur de la grâce incrustée sur la table.
« Ici commence le royaume des morts, et c'est par là que nous passons quand sonne l'heure. Au-delà, c'est l'éternité. Dans le royaume des morts, le temps n'existe pas. Oh, il y a bien un début quand nous traversons. » Mais la notion de fin telle que nous la connaissons n'a aucun sens en ce lieu. Dans le monde des vivants, où tout a un début et un terme, autrement dit, où on dispose de points de repère, le temps peut être mesuré. Là-bas, c'est un concept inconnu. Les Carillons viennent de l'éternité, et c'est d'elle qu'ils tirent leur pouvoir. En conséquence, le temps ne signifie rien pour eux. Tu as raison. S'ils n'obtiennent pas l'âme de l'être qu'ils sont venus aider, ils devront retourner dans le royaume des morts. L'ennui, c'est qu'ils peuvent décider d'attendre un instant pour voir s'ils ont une chance de réussir, ou afin de s'amuser un peu en semant la destruction et la mort. Un instant, cher Franca, qui peut être pour nous l'équivalent d'un millénaire, voire de 10, pour ce que j'en sais. N'oublie pas que les Carillons n'ont pas d'âme, et qu'ils ne vivent pas vraiment. Peux-tu imaginer ce que représente un instant pour des créatures pareilles ?
Franca buvait les paroles du vieux sorcier. À l'évidence, elle n'avait plus tenu depuis très longtemps le genre de conversation que seuls les gens comme Zed ou elle pouvaient réellement comprendre.
« Je vois ce que vous voulez dire, mais l'inverse est tout aussi vrai. » S'ils trouvent désagréable de rôder dans un monde où le temps leur impose des contraintes intolérables, ils peuvent décider de rentrer chez eux demain ou dans 10 minutes. Après tout, l'âme qu'ils convoitent n'a qu'une durée limitée à passer en ce monde. Sans véritable notion de la durée, ils croiront peut-être qu'il est déjà trop tard et renonceront à leur quête.
« Un contre-raisonnement brillant, » concéda Z, « mais... « qui peut dire combien de temps ils attendront ?
Au-delà d'un certain point, il sera trop tard pour que la magie renaisse de ses cendres. Certaines créatures magiques sont déjà gravement touchées. J'en mettrai ma tête à couper. Quand disparaîtront-elles à jamais? Dans la ruelle, j'ai vu que tes plantes dépérissaient déjà. Que se passera-t-il lorsque les papillons Gambit, par exemple, perdront leur magie? Combien d'animaux et d'humains périront si les récoltes sont empoisonnées?
De plus en plus blême, Franca détourna la tête. Ne la connaissant pas très bien, Zed répugna à l'accabler davantage. Mais sans la magie, il le savait, Jagang et l'ordre impérial seraient encore plus puissants. Sans soutien magique, ceux qui le combattaient risquaient de tomber comme des mouches et pis encore, d'avoir versé leur sang pour rien.
« Franca, nous sommes chargés de veiller sur le voile, de protéger les créatures magiques sans défense et d'assurer que la magie continue de servir l'humanité comme il lui fut toujours promis. À ce titre, nous devons agir au plus vite, car nous ne savons pas à quel moment il sera trop tard pour empêcher la catastrophe.
Vous avez raison, bien entendu. Mais pourquoi voulez-vous savoir où ont été enterrés les carillons? En quoi cela vous aidera-t-il?
Le sort qui les a jadis bannis, en annulant l'invocation qui les avait attirés dans le monde des vivants, doit nécessairement avoir ouvert une autre brèche dans le voile. Un tel contresort devait être équilibré par un charme secondaire permettant leur retour chez nous. Tu sais que la magie a toujours besoin d'équilibre. Le charme dont je parle était bardé d'une infinité de protections. Par exemple, ce que nous appelons la règle de trois. Mais ce n'est pas ce qui compte aujourd'hui. Son existence était requise pour servir de contrepoids au sort principal. D'après ce que je sais, la nature même des carillons leur impose de revenir dans le monde des vivants par la brèche qui a servi à les bannir. Le charme secondaire ayant été activé, c'est sûrement ce qu'ils ont fait, et voilà pourquoi je suis ici.
« Oui, »
murmura Franca.
« C'est logique. Le portail, où qu'il soit, sera ouvert. »«
Puisque tu ignores où ont été ensevelis les carillons, accepteras-tu de m'aider à trouver cet endroit ?»
Franca tourna de nouveau la tête vers Zed.
« Mais où chercherons-nous ? Savez-vous seulement par où commencer ? »
Le vieux sorcier vida sa tasse et la posa.
« Eh bien, si tu m'aidais à entrer dans la bibliothèque, ce sera déjà un début. »«
La grande bibliothèque du ministère de la civilisation ?»«
Exactement. Lors de ma dernière visite, on y conservait de très anciens textes. Puisque les carillons ont été bannis en Anderite, j'espère trouver des informations sur le lieu où cela s'est passé. » Avec un peu de chance, j'apprendrai d'autres choses utiles.
Quels sont les titres des livres qui vous intéressent? J'en connais peut-être certains.
Si seulement je le savais. Franca, ces livres n'existent peut-être pas. Et s'ils existent, rien ne m'assure qu'ils ne sont pas gardés ailleurs qu'en Anderite. Je veux consulter les ouvrages de votre bibliothèque et voir si j'y trouve quelque chose.
« Zed, il y en a des milliers. »«
Je sais, je les ai vus il y a très longtemps. »«
Et même si vous trouvez, que ferez-vous ensuite ?»«
Une chose après l'autre, très cher, »
éluda le vieux sorcier. S'il ne découvrait pas comment bannir les carillons, il avait un plan en tête à condition de dénicher leur tombe. Et même s'il entrait en possession du sort idoine et qu'il fût des plus simples à lancer, il risquait de ne pas y parvenir puisque ses pouvoirs déclinaient. Dans tous les cas, Zed semblait condamné à prendre des mesures radicales et désespérées.
« Alors, Franca, peux-tu m'aider à entrer dans la bibliothèque ?»«
Je crois, oui. Étant andérienne et introduite au ministère de la civilisation, on m'en permet l'accès. Ce n'est pas le cas de tout le monde, sachez-le. » Nos dirigeants ont tellement dénaturé l'histoire du pays que les livres, même les plus insignifiants, sont devenus dangereux pour eux. »
Franca se tut, plongée dans des pensées qui n'appartenaient qu'à elle. Puis elle en émergea et sourit bravement.
« Quand voulez-vous y aller ?»«
Le plus vite possible. » »«
Vous pourrez vous faire passer pour un érudit étranger en visite ?»«
Très cher.
Si c'est indispensable, je veux bien jouer n'importe quel rôle, y compris celui d'un crétin congénital incapable de se rappeler son propre nom.